La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi quotidienne de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 103 FM. Après un long week-end au calme dans son port, notre optimiste est prêt à repartir à la découverte de l'actualité locale. Et pour une reprise en douceur, on vous propose d'écouter une interview littéraire réalisée par Enora il y a quelques semaines avec Sorge Chalandon. Pour continuer sur une vague littéraire, on vous propose aussi d'écouter un poème lu par des membres de l'association Éclat dans le cadre du Printemps des Poètes. Et en fin d'émission, on écoute le reportage Murmure de Sophie qui s'est rendue à la Parenthèse, le lieu de vie étudiant sur le campus de Belleveille. Voilà pour notre tour d'aujourd'hui, hissons la voile et cap sur l'émission. On prend alors le large tout de suite avec l'interview d'Enora. Elle a rencontré Sorge Chalandon, journaliste et écrivain qui est passé à Angers il y a quelques semaines pour présenter son dernier roman « Enfant de salaud », un livre grandement inspiré de sa vie personnelle et du rapport avec son père et son passé.
J'ai rencontré Sorge Chalandon le 13 février durant les rencontres littéraires de la collégiale Saint-Martin. Sorge Chalandon, il est journaliste et écrivain et il était là pour parler de son dernier roman, Enfant de salaud. L'enfant de salaud, c'est lui. C'est ce que lui a dit son grand-père quand il était enfant. Et depuis, les questions persistent sur son père. Héros de guerre comme il le lui racontait ou collabo? Des questions qui trouvent réponse quand il met la main sur son dossier judiciaire au même moment où il couvre le procès Klaus Barbie en 1987, l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise. Tel est le résumé de ce roman grandement inspiré de sa vie personnelle. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il parle du père puisqu'il l'avait déjà fait en 2015 avec le roman Profession du père, une autre autofiction sur sa vie d'adolescent avec un père mythomane qui l'entraîne à tuer De Gaulle. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de retourner sur le sujet de votre père ?
Bonsoir, Radio Campus d'abord. C'est parce que bon, je suis comme d'autres gens, c'est-à-dire que le problème que j'ai eu, qui est un problème qui est assez banal, disons, c'est que je n'ai jamais su ce que mon père avait fait pendant sa vie. Et jamais su non plus ce qu'il avait fait pendant sa guerre. C'est-à-dire que c'était un père fou qui est mort en hôpital psychiatrique et qui s'inventait des métiers. Il avait créé les compagnons de la chanson, il était membre des services secrets, il avait été l'un des derniers soldats à quitter la cuvette de Dien Bien Phu pendant la guerre de Corée. Tout ça était évidemment faux. Mais une chose en tout cas était constante dans ce qu'il nous racontait, c'est sa résistance. Il disait qu'il avait été un grand résistant à Lyon. Et moi, j'avais un doute, d'autant que mon grand-père m'avait dit qu'en fait, il avait choisi le mauvais côté pendant la guerre, que c'était un enfant de salaud. C'était l'expression de mon grand-père qui a donné naissance à ce livre, à ce titre-là. Et toute ma vie, jusqu'à ce qu'il meure, en fait, je me suis demandé ce qu'il avait fait. Et après sa mort, seulement malheureusement après sa mort, j'ai mis la main sur son dossier judiciaire, ce que je n'avais pas avant. Donc quand j'ai écrit « Profession du père » sur lui, quand j'ai écrit « La légende de nos pères » sur lui, je ne savais toujours pas ce qu'il faisait. Je me doutais qu'il avait eu une vie étrange et une guerre étrange. Mais ce dossier militaire, ce dossier judiciaire, ce dossier gendarmesque, policier, je ne l'avais pas. Et je l'ai eu en mai 2020. Et donc c'est grâce à ce dossier, c'est parce que j'ai eu ce dossier, même s'il était mort, que j'ai écrit ce roman-là sur la vraie guerre de mon père.
Pourtant, vous ne vous en servez pas pour le juger. Vous êtes plein de compréhension dans ce roman.
Et je suis pas un policier, je suis pas un juge, je suis pas un gendarme, je suis pas un magistrat. Qui peut juger, y compris son père? Moi, je peux pas le juger. Moi, ce que je veux, c'est comprendre comment il a fonctionné, comprendre pourquoi est-ce qu'il a menti. Mais juger, je vois pas à quoi ça servirait. D'abord, je pense pas que je sois en mesure et en poste de juger. Qui suis-je pour juger, y compris mon père? Et quand j'ai travaillé sur d'autres romans comme La traîtrise en Irlande du Nord, j'ai écrit deux romans, un qui s'appelle Mon traître et l'autre Retour Achille Beggs, avec un copain irlandais qui était un nationaliste irlandais, qui était un combattant de l'IRA et qui était un traître, ben, je n'ai pas jugé le traître non plus. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on devient traître ? Et pour mon père, comment est-ce qu'on devient menteur ? Et pourquoi est-ce qu'une vie entière, on ment à son fils, à sa famille ? Et comment on fait ? Et quelle est cette solitude qui fait que tu t'enfermes dans quelque chose à tout jamais ? Et que jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton lit de mort, ben, tu vas continuer à mentir sans te dire « mais je suis en train de leur faire du mal, je suis en train de les détruire ». Donc, juger ne sert à rien, mais moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre.
J'ai remarqué que vous utilisiez beaucoup la figure mythologique du Minotaure pour parler de votre salaud de père. Pourquoi ?
Parce que c'est ça, parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi après, mais ce n'était pas une famille, en fait, c'est une secte. Nous étions dans une secte minuscule, c'est-à-dire il y avait le père, la mère, mon frère et moi. C'est une petite secte avec un gourou. Et plus j'y pense, d'abord, je pense que maintenant, avec le recul, maintenant qu'il est mort, maintenant que je suis adulte, je pense qu'il avait le droit de vie et de mort sur nous, en fait. Je pense qu'il aurait pu nous tuer, voilà. Et cette maison qui était pas grande, qui était sombre, m'a toujours fait penser à un labyrinthe. Et ce labyrinthe, il fallait que je m'en échappe. Et donc, le Minotaure, bah, c'est celui qui garde le labyrinthe. Et je trouve que c'est cet homme qui me disait « ne ressemble jamais à un intellectuel ». Moi, ce que je veux, c'est que tu ressembles à un sportif, parce que les sportifs ont des coups de taureau. Cette phrase totalement idiote, et il m'obligeait à mettre, enfin, il mettait lui-même sur mes murs des photos de culturistes, d'hommes qui lèvent de la fonte, etc., qui avaient des coups de taureau. Et ce coup de taureau, ça m'a hanté ma vie entière, ma jeunesse entière, parce que ça me faisait peur d'abord, et c'était pour moi le contraire de l'intelligence. Et donc le Minotaure s'est imposé. Il était le chef des coups de taureau, donc c'était mon Minotaure.
Est-ce que dans tous ces doutes, ça peut être aussi en lien avec ce besoin que vous aviez ressenti après toutes ces années en tant que journaliste de guerre, de dire « je ». Je sais que c'est une expression que vous aviez utilisée lors d'une conférence à Brest en 2016 pour dire que vous étiez mis à écrire des romans par ce besoin de vous exprimer en votre nom et de ressortir ce que vous ressentiez.
C'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être journaliste parce que j'avais un besoin de vérité après une enfance de mensonges, les mensonges de mon père. Mais le journaliste, à mon sens, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi je suis de la vieille école, si je puis dire, et le journaliste n'a pas le droit de dire « je ». Voilà, il est quelque part, par exemple dans un reportage de guerre. Je déteste vraiment ça. Ça m'insupporte quand un journaliste passe la moitié de son article à écrire qu'il a pris des risques et tout ça. C'est son métier de prendre des risques. Ça va, qui ne m'embête pas avec ça. Ce que le lecteur veut, c'est qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a compris, à la limite, même s'il n'est pas éditorialiste mais reporter, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a compris. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti ? On en fait quoi de ça ? Et moi, je travaille toujours sur des petits carnets à spirale. Et sur toutes les pages de droite de mes carnets, j'écris absolument tout ce qui concerne le journalisme et le journal. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, je vois une femme qui porte un enfant mort pendant la guerre d'Irak où j'étais pendant les bombardements de Bagdad. J'étais à Bagdad. Cette femme qui porte ce bombardement en disant aux journalistes étrangers « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Ça, c'est dans mon journal. Mais moi qui pleure en l'écoutant, je ne peux pas l'écrire ça. Ça, c'est sur mes pages de gauche. Et en fait, mes romans, je me suis aperçu tardivement, mais mes romans sont la somme de mes pages de gauche. Donc, pour moi, c'est un moyen de quitter le journalisme. Le journaliste vous oblige à raconter cette femme et cet enfant. Le romancier, lui, fait, il peut, il a le droit de faire que soudain cet enfant, il tressaille dans les bras de sa maman et il n'est pas mort. Le romancier a le droit de faire ça. Le journaliste ne peut pas faire ça. Donc, en tant que romancier, moi, je répare plein de choses que j'ai vues en tant que journaliste. Quand j'ai écrit le quatrième mur sur la guerre du Liban, je suis entré dans les camps de Sabra et Shatila, camps palestiniens dans le sud Liban, sud de Beyrouth, qui ont été martyrisés. Je rentre dans ces camps où les vieillards, les femmes et les enfants avaient été assassinés. Je remarque une jeune fille assassinée qui a été violée, assassinée par les Kataeb, c'est-à-dire les chrétiens libanais. Cette femme, quand j'arrive en tant que journaliste, elle est morte. En tant que romancier, je retourne pour mon livre « Le quatrième mur », je retourne dans ce camp, je revois cette femme et je la fais se lever. Et je l'appelle Imane, et elle est institutrice. Et c'est elle qui va jouer Antigone au Liban. C'est-à-dire que l'extraordinaire pouvoir de la fiction, c'est que je peux faire d'une morte une femme qui vit, une femme qui rit, une femme qui danse, une femme qui récite des poèmes palestiniens de Mahmoud Darwish, le grand poète. C'est-à-dire que ça, le journaliste ne peut pas le faire. En revanche, quand je dis « je », Et quand je retourne au Liban, non pas en tant que journaliste dans mon roman, mais en tant que metteur en scène de théâtre, j'ai le droit de dire à cette jeune fille, lève-toi s'il te plaît.
Et question pratique pour finir, qu'est-ce que vous conseillez de lire en premier ? Enfant de Salo qui revient sur la jeunesse de votre père, ou Profession du père qui revient sur ses mensonges en tant qu'adulte ?
Écoutez, moi, je l'ai écrit dans ce sens-là. J'ai écrit Profession du père parce que je ne savais pas. Il était mort, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et dans Profession du père, il y a juste une petite phrase du grand-père qui dit « Ton père était du mauvais côté ». C'est juste la phrase parce que c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je retiens de mon enfance. Donc, moi, j'aime bien le lire dans ce sens-là parce que dans le sens Profession du père, c'est un enfant qui se dit « Mais pourquoi mon père est comme ça ? Pourquoi il ment ?» Pourquoi il va finir en hôpital psychiatrique ? Je ne sais pas, moi, pourquoi. Et Enfant de Salo, c'est une réponse. Mais je pense que Provision du Père étant une question et Enfant de Salo étant une réponse, je préférais commencer la question d'abord et la réponse ensuite. D'autant que Enfant de Salo, quand j'ai terminé d'écrire Provision du Père, c'était encore une fois un enfant qui écrit sur son père. Enfant de Salo, c'est la première fois que j'ai l'impression que je ne suis plus l'enfant de mon père, je suis le père de mes filles. Et cette enfance-là, je l'ai laissée derrière moi. Cette enfance-là, et c'est terminé avec Profession du père. Et toute l'histoire du père, tous les lieux qui ont fait que mon père a pu être dans mes romans, parce qu'il est dans d'autres romans. Il est dans d'autres romans, dans d'autres personnages. C'est sa démarche, c'est sa façon d'être, ce sont ses habits, c'est son âge même. Tout ça se referme avec Enfant de Salo. Enfant de Salo met un point final à la quête d'un père qui a commencé quand j'avais 8-9 ans, me demandant qui tu es papa, et réponse que je n'ai jamais obtenue, sauf grâce à ce dossier, après sa mort.
Merci beaucoup, Serge Chalandon. Enfant de Salo est publié aux éditions Grasset depuis octobre 2021. On replonge au cœur du procès Klaus Barbie et de la Seconde Guerre mondiale d'une manière plus qu'unique, un roman qui mérite de prendre le temps pour être découvert.
Merci à vous.
J'ai rien à faire dans le caveau de l'intendant. Tu sais, je repars à zéro, ouais, tu penses. J'enrage de ne plus dire adieu.
Jamais je ne le pense.
Je rêve d'annuler tes adieux. Si je m'en vais tout en haut, mais pour y voir qui. Gardez seulement les cœurs de pierre pour la cadence. Mesure de faire la fière, je me suis balance. Mon truc à moi, c'est tenir tête. Je suis faite pour ça. J'aime pas trop goûter la défaite, gâcher la fête, marcher en pas. We'll be right back. c'est pas nouveau.
C'était Fishback avec son titre presque beau sur le 103FM. Il est 18h18, vous êtes toujours à l'écoute des bonnes ondes sur Radio Campus Angers. Bonnes ondes co-navigue avec notre optimiste. Aujourd'hui, il suit un cap littéraire dans le cadre du Printemps des Poètes et un partenariat avec l'association Éclat. On écoute maintenant un poème de Taras Shevchenko, lu par Olieza Ustimenko en soutien à l'Ukraine.
Думи мої думи, лиха мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіє в степи, як пилину, чом вас лиха не приспала, як свою дитину, бо вас лиха насвіт, насміх породила, полювали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали, за що проклинаю долю. Чого нуджу світом, нічого робить, не казали б насміх.
Mes pensées, oh mes pensées, comme vous me troublez. Pourquoi vous couchez-vous sur le papier en si triste rangée? Pourquoi le vent ne nous a-t-il pas dispersés dans la steppe comme de la poussière? Pourquoi le malheur ne vous a-t-il pas bercé comme l'enfant l'est par sa mère? Car c'est le malheur qui, pour se moquer, vous a engendré, les larmes vous ont baigné. Pourquoi ne vous ont-ils pas dissipés, portés à la mer, dilués dans la terre? Les gens ne me demanderaient pas ce qui me fait souffrir, ni pour quelle raison je maudis mon avenir, ni pourquoi je languis dans ce monde. Rien à faire. Pour se moquer, ils ne le diraient pas.
Le poète qu'on vient d'entendre, c'est Taras Shevchenko, poète, peintre et humaniste, figure emblématique dans l'histoire de l'Ukraine. Il marque le réveil national du pays au XIXe siècle. Sa vie et son œuvre font de lui une véritable icône de la culture de l'Ukraine et de la diaspora ukrainienne au cours des XIXe et XXe siècles. Et la principale université ukrainienne porte son nom depuis 1939, l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev.
Merci à l'association Éclat pour ce moment de poésie. Vous allez retrouver d'autres de leurs lectures de poèmes prochainement dans Notre Optimiste, toujours sur le 103FM. Quant à nous, avant de nous quitter, on fait une dernière escale à la Parenthèse. La Parenthèse, c'est le lieu de vie sur le campus de Belle-Baye de l'Université d'Angers, où les étudiantes et étudiants se retrouvent en dehors des cours lors d'événements festifs et culturels. Sophie y est allée lors d'une bataille de dessin il y a quelques semaines. Elle nous raconte ce lieu dans son reportage Murmure. On l'écoute tout de suite.
La Parenthèse, tout est dans le nom. Une parenthèse dans une journée, c'est avant tout un temps qu'on prend pour soi. Pour les étudiants, c'était le nom idéal. Ce qui était auparavant une cafette universitaire est devenu leur lieu pour se retrouver en dehors des cours. Au cœur du campus de Belle-Baye, la vie étudiante s'anime au rythme des événements. Ce soir-là, c'est Battle de dessin. On retrouve à cette occasion Amandine Girard, co-responsable du lieu et responsable de la vie associative à l'Université d'Angers, et les compétitrices Marie, étudiante aux Beaux-Arts, et Chiara, artiste angevine.
pendant une heure. Il va y avoir deux équipes composées de deux dessinateurs professionnels plus une étudiante. Et ils vont pouvoir s'affronter sur des thématiques proposées par le public. Et évidemment, le public sera aussi impliqué sur le vote et les points à répartir entre les deux équipes.
Pour moi, c'est la première fois du coup que je participe à un battle de dessinateurs. C'est quand même une opportunité de dessiner avec des gens qui font ça de manière professionnelle, alors que je suis encore étudiante. J'en avais jamais fait, je savais même pas trop que ça existait. Du coup, je suis assez curieuse et on va bien voir à quelle sauce on va nous manger.
En gros, le principe, c'est qu'on le public a noté des mots sur des papiers qui sont tirés du chapeau au fur et à mesure. Et nous, on va devoir dessiner. Ça va être des contraintes de temps, donc 15 secondes, 3 minutes, plus longtemps. Et il va y avoir des exercices, mais on ne connaît pas tout. Genre dessiner avec la main opposée, tout ça. Ça va être chouette. C'est la première fois en battle de dessinateur. Première fois que je dessine avec d'autres gens. Donc je pense que ça va être drôle. On a beaucoup d'humour tous, donc ça va être sympa.
DJ Spock anime musicalement la soirée et aussi un comédien, donc Fabio, qui fait partie de la compagnie du CRI, qui va animer la soirée et interagir avec le public en direct. Ça fait partie des petites surprises pas prévues par le public, je pense.
DJ Spock a préparé une épreuve très spéciale, je crois que c'est la première en France. Au bout de 30 secondes, ça va changer de musique. Et là, le dessinateur devra adapter son trait, son dessin à la musique. Il doit dessiner en rythme, en utilisant son corps également. Et les dessinateurs sont de grands danseurs, c'est bien connu.
La parenthèse, c'est un lieu de vie étudiant. C'est-à-dire, c'est un foyer plus pour les étudiants. On a 400 mètres carrés avec un espace jeu, un espace repos, un espace travail. Et les étudiants peuvent venir y faire ce qu'ils veulent de 10h à 18h30 du lundi au jeudi jusqu'à 14h30 le vendredi. Ensuite, dans un second temps, c'est un lieu de diffusion culturelle, artistique et d'animation. Et puis, dans un troisième temps, c'est aussi un outil pour les associations étudiantes où les étudiants porteurs de projets qui souhaitent travailler avec nous, à la parenthèse, sont les bienvenus. C'est un projet coporté par le CROUS et l'université. C'est une extension du service culturel du CROUS et ça, peu d'étudiants savent qu'il existe une action culturelle au sein du CROUS.
Public, vous êtes prêts ?
Oui !
Attention, musique de préparation.
La programmation de la parenthèse, elle est vraiment co-construite CROUS et Université d'Angers avec une forte proposition culturelle de la part du CROUS. Et puis de mon côté, ça va être un peu plus comment travailler avec les services de l'université, valoriser la création étudiante, travailler avec la direction de la culture de l'université aussi, puisqu'on a la culture à l'université. Et après, il y a quelques-unes de nos envies. Moi, par exemple, je tenais absolument à ce qu'on soit une scène pour le stand-up. Donc on travaille avec Angers Comedy Club et c'est quelque chose qui ne se faisait pas encore sur l'université.
Ouais, moi, c'est une droite.
En vrai, je sais pas, moi.
On danse, on danse, on se dérange, là.
Voilà. Ça se dérange pas beaucoup.
Impossible de très bien. Je voudrais savoir lequel tu voudrais
dire. Il y a mis la petite touche de couleur. Il galère un peu avec ses petites.
On lâche les marqueurs. Oh là là.
La parenthèse en lieu de vie, c'est un élément essentiel sur le campus de Belleveille aujourd'hui. Il ne se passe pas grand-chose sur ce campus-là, donc c'est important pour les étudiants quand même d'avoir cet espace en journée et en soirée, d'avoir des propositions culturelles ou d'animation. Ça permet en fait de fédérer aussi les étudiants à leur campus, à leur offrir une petite capsule d'air en dehors des cours, parce qu'il existe très peu de lieux en dehors de la BU pour venir travailler, se reposer, voir autre chose, se retrouver, se rencontrer aussi. Voilà, il y a les groupes d'étudiants qui vont venir pour jouer parce qu'on a des jeux de société à dispo où ils ramènent leurs propres jeux. On a un baby qui est tout le temps occupé. On va avoir ceux qui vont faire des siestes dans les poufs. On va avoir ceux qui se réunissent pour travailler, ceux qui travaillent tout seuls. Il y a plein de choses en fait qui se passent. Pour le coup, on est au cœur de la vie étudiante en dehors des cours. On organise tout type d'événements, des concerts, des conférences, des ateliers, des tournois de baby. On peut accueillir aussi des partenaires du territoire qui peuvent présenter ce qu'ils font, donc tout est possible.
Tout est possible, car la parenthèse est un lieu de vie étudiant, bien sûr, mais aussi un lieu de diffusion culturelle pour le territoire de Belleveille. La parenthèse ouvre aussi ses portes au public pour les événements. Toute la programmation est à retrouver sur les réseaux sociaux. Cherchez La Parenthèse pour Facebook et la.parenthèse.bb pour Instagram.
Murmure.
Et c'est déjà l'heure pour notre optimiste de revenir à son port. Merci à toutes et à tous pour avoir été à bord avec nous. Restez sur les bonnes ondes du 103 FM ce soir pour votre rendez-vous rock Electric Troubles de 22h à 23h. Et d'ici là, régalez vos oreilles avec notre programmation musicale riche en nouveautés d'ici et d'ailleurs. Très belle soirée à vous à l'écoute de Radio Campus Angers.
www.radiocampusangers.com